entrait pour montrer sa pouvoir, sa puissance. Il rentrait avec un cheval blanc, un gros cheval blanc, pour montrer comment de pouvoir il avait, comment de puissance il avait. Il était le roi, il était celui qui voulait qu'il soit regardé et qu'il soit plein de puissance. Mais Jésus est entré sur un âne. Les disciples devaient. Oui, c'est bien, ils mettaient des choses en avant de lui pour le faire rentrer, mais je suis sûr que je suis un âne, Jésus. Bien sûr, après, il était à le repas, ils ont eu le repas avec lui, un repas qui était encore différent. C'était différent, ils avaient eu plusieurs repas avec le Seigneur, mais celui-ci était différent. Il y avait quelque chose à propos de ce repas-là qui n'était pas, c'était confus. C'était pas pareil. Même lorsqu'il a dit, quelqu'un va me trahir. Ben voyons, Jésus. Les disciples vont se demander, ben quoi est-ce qui parle? Ben qui? Moi? C'est-tu moi, Seigneur? Qui c'est que ça va être? Qu'est-ce qu'il va traduire? Confus. Difficile. Un jour après, Jésus s'est levé. Et il a commencé à laver leurs pieds. Jésus, voyons. Jésus, notre rabbi, notre maître, qui veut laver les pieds. Allons. Confus. Comprends pas. Même Pierre a dit, non, Seigneur, non, toi, tu ne me laves pas les pieds à moi. Moi, je devrais laver les pieds à toi. Le Seigneur, il dit, non, il faut que ça se fasse. Mais il dit, ben, c'est pour que ça se fasse, lave-moi tout. Lave-moi des pieds à la tête. Comprenez pas. Confus, tant difficile pour les apôtres, tant difficile pour les disciples. Ils ne comprenaient pas. Bien sûr, après, ils ont été au jardin de Gethsémani. Encore, ce n'était pas comme avant. C'était différent. Ils pleuraient. Ils s'en allaient plus loin, puis ils pleuraient. Ils priaient, ils pleuraient, ils revenaient. C'était pas comme d'habitude. Alors, je suis sûr que les disciples étaient confus, c'était des temps difficiles pour eux. Bien sûr, après, il fut arrêté par les autorités religieuses, jugé par le tribunal de Caïphe, le grand prêtre, accusé de blasphème. Accusé Jésus de blasphème. Un mensonge, bien sûr, un mensonge. Si Caïphe avait entendu suffisamment de preuves pour le déclarer coupable, il aurait pu être condamné à mort par lapidation. Saviez-vous? Il aurait pu être condamné à mort par lapidation. Mais le grand prêtre n'était pas à l'aise avec ce jugement. Alors il a livré Jésus à Ponce Pilate, qui lui l'a accusé de crime politique, de défier l'autorité du gouvernement. Bien sûr, Pilate, un politicien, a entendu les opinions populaires. Et lorsque les voix ont commencé à crier, crucifiez-le, crucifiez-le, le gouverneur romain condamna Jésus à mort. Condamna Jésus à mort. Bien sûr, vendredi, la crucifixion, une forme d'exécution cruelle. Vraiment cruel. Des clous sont enfoncés dans les mains, dans les pieds. Cruel. Tout le poids du corps de la victime était soutenu par ces clous terribles. Tant cruel, tant difficile pour les autres, pour les disciples. Après une longue souffrance à cause du choc, bien sûr, et la perte de sang, la mort arrive, mais vraiment, c'est un soulagement vraiment. C'est une bénédiction. Il n'était pas rare de survivre sur la croix pendant plusieurs jours, mais Jésus était dans un tel état d'affaiblissement qu'il mourut dans l'après-midi même ou le jour où il était crucifié, la journée même. Après que les soldats romains ont été certains de sa mort, certains de ses amis ont descendu son corps de la croix et l'enveloppèrent Jésus dans un lin qui contenait 100 livres de myrrhe. 100 livres de myrrhe, d'aloès et d'épices. Et ensuite, ils ont soigneusement placé le corps de Jésus dans un nouveau tombeau, dans le cimetière Jordan qui était voisin. Et bien sûr, le dimanche arriva. C'est là que j'aimerais de continuer l'histoire dans Jean, chapitre 20, versets 1 à 18 que nous allons lire. J'aimerais de parler premièrement à propos un peu de Marie-Madeleine, qui va nous apporter par ce qu'il vit. Alors, Jean 20, de 1 à 18. Alléluia. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre apôtre courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelets posés par terre. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelets posés par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Souvenez, un temps difficile pour tous les disciples, et Marie-Madeleine aussi. Elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés du blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni, maître, Rabboni. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Alléluia. Puissant. 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 Alors, Jean nous raconte que tôt le matin, le dimanche matin, bien sûr, alors qu'il faisait encore nuit, Marie-Madeleine se rendit seule au cimetière. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a été surprise de constater que la grande pierre couvrant l'ouverture de la tombe avait été enlevée. Elle s'est précipitée vers l'endroit où se trouvaient les disciples de Jésus le plus proche. Et quand elle est arrivée, seul Simon-Pierre et un autre apôtre anonyme qui nous disent, décrit comme celui qui aimait Jésus, étaient debout et sortaient dans les rues de la ville. Marie-Madeleine leur dit, « Ils ont fait sortir le Seigneur du sépulcre et nous ne savons pas où ils l'ont déposé. » Alors tous les trois ont couru vers la tombe. Les apôtres courus vers l'ouverture du tombeau pour voir. Ils ont trouvé les vêtements funéraires, mais pas de corps. L'apôtre Jean a remarqué dans son, lorsqu'il a écrit que jusqu'à présent, en se référant aux disciples, aux apôtres, ils ne comprenaient pas l'Écriture qu'elle devait ressusciter d'entre les morts. Lorsque les hommes quittèrent le cimetière, Marie-Madeleine resta. Tout en pleurant, elle se pencha, regarda le tombeau et vit les deux anges vêtus en blanc. Les anges lui demandèrent, « Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? » Ils ont pris mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Remarquez ici que ce qui se passe. Marie-Madeleine est venue au cimetière dans le deuil. Une semaine difficile, les deux derniers trois jours, difficile pour elle. Elle était dans le deuil. Elle avait perdu son maître, son rabboni. Elle l'avait perdu, il n'était plus. Elle était surprise de trouver un tombeau vide et conclut que le corps de Jésus avait été volé. Même après que les apôtres ont découvert les vêtements funéraires vides, Marie-Madeleine resta dans l'ignorance. Il ne lui est pas venu à l'esprit que cela devrait être quelque chose d'autre. Même l'apparition des anges ne l'a pas amenée à arrêter de chercher Jésus. Et l'histoire continue que lorsqu'elle sortit du tombeau, elle se tenait là et le Seigneur lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-vous? » Au début encore, Marie-Madeleine ne comprenait pas. Elle a pris Jésus pour le jardinier. Elle a même demandé si Jésus, si c'était lui qui avait déplacé le corps. Et comme on a lu après un moment qui s'est écoulé, Jésus l'a regardé et dit, « Marie, pouvez-vous vous imaginer, Marie? Qu'est-ce qu'on connaît à propos de cette femme? Cette femme qui a joué un rôle très, très important dans l'histoire de la résurrection. Premièrement, elle est mentionnée plus de fois dans les Épîtres que la plupart des disciples, saviez-vous? Elle est mentionnée 12 fois par son nom dans les Épîtres. On sait qu'elle a été née dans un village de pêcheurs, de Magdala, sur la mer de la Galilée. Nous savons aussi que Jésus a chassé 7 démons de elle. Dans Marc 16 et Luc 8, ça nous en parle. Cela devrait nous montrer que quoi que ce soit votre arrière-plan, le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur veut pardonner. Le Seigneur veut vous pardonner, nous pardonner. Peu importe comment grave était son passé, maintenant elle était pardonnée. Une nouvelle créature, une nouvelle vie. On reconnaît aussi qu'elle n'a pas laissé Jésus lorsqu'elle avait été arrêtée et même qu'elle était présente à la crucifixion. Elle était présente à la crucifixion. Bien sûr, un temps difficile. Mais lorsqu'elle a entendu son nom, elle a finalement réalisé Marie. Marie. Vous savez, les noms sont importants à Jésus. Amen. Il connaît nos noms et nos noms sont importants à Jésus. Amen. Thomas. Thomas. Amen. Pierre. Il connaît nos noms. Norbert. Arthur. Il connaît nos noms. Et on est important à ses yeux. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors après qu'elle a reconnu, ses larmes ont commencé à sécher, son moral était remonté et elle commença à penser un peu plus clairement. Personne n'avait volé son corps parce que Jésus n'était plus mort. La mort ne pouvait pas le détruire. Le tombeau ne pouvait pas le contenir. Il est ressuscité et il vit. Alors que le sang de Christ ressuscitait encore dans ses oreilles, Marie-Madeleine s'est précipitée pour parler de Christ aux autres disciples. Oui, j'aurais fait la même chose, et vous autres aussi. Waouh, il est vivant. Il est ressuscité, il n'est plus là. En s'approchant, elle a crié à bout de souffle, « J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, il est vivant. Il n'est plus dans la tombe. » Ça a pris un peu de temps pour qu'elle réalise, mais finalement, la pleine signification de ce que Marie-Madeleine a rapporté est devenue réelle. Ils ont réalisé, oui, il vit, c'est vrai, il vit. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas seulement que Jésus a vécu à Jérusalem au premier siècle. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est qu'il vit et il vit encore aujourd'hui. Amen. Et parce qu'il vit, hallelujah, hallelujah, merci Seigneur, on peut le connaître, on peut le connaître, on peut lui, on peut connaître sa puissance, on peut connaître sa résurrection parce qu'il vit. Gloire à Dieu. C'est le message de Pâques. C'est le message de Pâques. Nos difficultés peuvent être changées en possibilités à cause qu'il vit. Nos désespoirs peuvent être changés à la joie. Nos peurs peuvent être changées en courage. Et nos défaites peuvent être changées en victoire parce qu'il vit. Alléluia. Nos vies valent la peine. Parce qu'il vit. Nos vies valent la peine. C'est la signification de Pâques. J'espère que vous ne couchez pas ce soir sans comprendre cela. J'espère que vous pouvez comprendre comment est-ce que, à cause qu'il vit, nous pouvons vivre puissamment en lui. Parce qu'il vit. Si on regarde un peu une couple de versets dans le livre de Romains, il y a quelques raisons de se réjouir pourquoi est-ce qu'il vit. Et la première, c'est ceci. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit, sa grâce. Oh, alléluia. Disait ça tout le monde. Disait ça ensemble. Parce qu'il vit. Oh, glory. Sa grâce est plus grande que nos péchés. Alléluia. Alléluia. Romains 5, 15. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, vous le connaissez, hein, Adam? Si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Alléluia! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Avez-vous remarqué le don gratuit, hein? Le don gratuit. Sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu. Le don de la grâce, tous des mots importants. La grâce de Dieu, le don de la grâce. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà joué ça, mais on jouait ça. Tu vas dans le sable et tu fais une ligne. Tu fais une ligne. Puis tu dis, viens, essaye de traverser cette ligne-là. Come on. Amen. C'est que le péché nous sépare de Dieu. C'est ça qu'Adam a fait. Hein? Adam a dit, moi je peux y aller. Moi, je n'ai pas peur. Vous savez ce qui est arrivé. Hein? Amen. Mais le péché nous sépare de Dieu. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nous, pour chacun de nous. Lui, il n'avait pas de péché, mais il mourut pour nos péchés. L'œuvre de Christ est beaucoup plus grande, car elle apporte la grâce de Dieu à ceux qui sont pris par le péché. Il amène la grâce à ceux qui sont coincés par le péché, ceux qui sont pris par le péché. Il amène la grâce, le don de la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Romains 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs. Merci. Encore. Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs. Alors, premièrement, sa grâce est plus grande que nos péchés. Merci. Deuxièmement, le salut est plus grand que la condamnation. Le salut est plus grand que la condamnation. Romains 5, 16. Et il y eut une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation. Tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Oh, que ça rentre dans notre esprit. Que ça puisse entrer dans notre esprit. Le péché de Adam a apporté la condamnation. Comment le péché que Adam a commis pour apporter la condamnation? Un seul. Un péché et le monde entier a entré dans la noirceur. Pourtant, combien de péchés ont été pardonnés par la crucifixion? Jésus n'a pas seulement pardonné le péché d'Adam, mais le péché du monde entier. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 2:2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et finalement, sa grâce est plus grande que nos péchés, le salut est plus grand que la condamnation, et la vie en Christ est plus grande que la mort. La vie en Christ est plus grande que la mort. Encore Romains 5:17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'il vit, le Seigneur prend des pécheurs comme nous qui ont reçu cette grâce, qui ont accepté cette grâce et on peut régner avec lui dans sa gloire. Quelle merveille! Quelle merveille! Alléluia! Merci Seigneur. Alors, en revenant à Marie-Madeleine, ça m'a intéressé de voir pourquoi elle n'est pas immédiatement reconnu Jésus lorsqu'elle a vu debout à l'extérieur du tombeau. Marie-Madeleine était l'une des plus proches disciples de Jésus. Elle n'était pas étrangère. Pourquoi n'a-t-il pas reconnu tout de suite? Pourquoi est-ce qu'elle était surprise de voir le tombeau vide? Elle avait entendu Jésus prédire sa résurrection. Est-ce qu'elle n'était pas attentive lorsqu'il l'a dit? Pourquoi n'est-elle pas venue au cimetière en s'attendant à voir un tombeau vide? Tant qu'un ami fidèle, elle n'aurait pu jeter un coup d'œil à la pierre et dire « Alléluia, le Christ est ressuscité, comme il l'avait dit ». Mais ce n'est pas quelqu'un qu'elle a fait. Il y a de nombreuses explications pour cela, mais l'explication la plus simple et la plus évidente, c'est comme j'ai mentionné au commencement, ce fut une semaine difficile pour les disciples et Marie-Madeleine. Ce fut une semaine difficile. Elle avait assisté à la mort brutale de son ami, son mentor, son rabboni. Elle était là pour aider à transporter son cadavre dans la tombe. Marie-Madeleine partit tôt le matin pour se rendre au cimetière, le cœur débordant de chagrin, de tristesse. Elle était dans le deuil, elle pleurait. Son esprit devrait être plein de douleur, de souffrance. Je pense que nous pouvons s'imaginer que Marie-Madeleine considérait sa vie comme presque finie. C'est quoi je vais faire maintenant? Alors qu'elle se tenait à l'extérieur du tombeau en pleurant, elle a dû avoir l'impression de connaître jamais, elle ne connaîtrait jamais avec la joie. Elle ne reconnaîtrait jamais de nouveau cette joie qu'elle avait, la joie profonde qu'elle avait connue lorsqu'elle marchait avec son rabboni. Découragée, méprisée. Peut-être ce que Marie ressentait serait la même chose que nous ressentions si que on arrivera à l'ouvrage et notre patron dirait « Vous avez fait un excellent travail, mais nous vous avons coupé des plans, on a changé des plans, alors votre emploi va être terminé la semaine prochaine. » Ou peut-être si vous arrivez proche d'un accident, le policier vous dit « Nous avons appelé l'ambulance, mais il semble que votre mari est mort suite à des blessures qu'il avait. » Ou peut-être que lorsque le médecin vous dit, les rapports du laboratoire sont de retour, les résultats ne sont pas trop bons. vous avez une forme agressive de cancer. Au sentiment. Quelle sorte de sentiment? Je pense que c'est un peu cela que Marie-Madeleine ressentait ce dimanche matin. Elle avait l'impression que sa vie n'était jamais plus la même. Elle était sur le point d'être écrasée par le désespoir, mais elle a gardé toujours une petite étincelle dans son cœur, une petite lueur d'une possibilité d'une foi. Peut-être, peut-être. Au contraire de toutes les épreuves de cette fin de semaine, Marie-Madeleine est restée ouverte à croire que le Créateur et le soutien de ce monde, qui tient le monde dans le creux de sa main, est un Dieu qui veut que les choses soient meilleures, soient bonnes. Un Dieu qui a promis la vie, plutôt de se contenter à la peur ou à la mort. Au fond de son cœur, Marie n'a jamais cessé de croire que Dieu ne l'avait pas abandonnée et que tôt ou tard, elle verrait l'évidence de sa présence de nouveau. Lorsqu'elle a entendu Jésus prononcer son nom, elle a saisi la significance de ce qui se passait. C'était comme si un petit coin de la réalité de sa vie s'est levé de nouveau et Marie pouvait jeter un coup d'œil à l'éternité, à ces choses qui s'en venaient en avant, parce qu'elle vit. Elle a réagi en criant, « J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur, et parce qu'elle vit. » Amen. Et parce qu'elle vit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la raison de Pâques. Merci Seigneur. Pâques, un jour magnifique. Un jour de réjouissance, un jour de le plus important de toute l'année. Le plus important, c'est un jour de fête. Un jour de fête, la communion chrétienne, la salutation joyeuse. Rien de plus beau. Amen. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Rien de plus beau. Pâques est ici et il vit. Alléluia. Alléluia. À Pâques, on célèbre un nouvel espoir en nous. Un nouvel espoir qui a la possibilité de vivre une vie en abondance, comme qu'il nous l'a dit. On a la possibilité. Dieu nous dit que ses bénédictions et son amour sont les nôtres. Ils sont à nous. Des bons et des grands jours sont maintenant possibles pour nous, avec les meilleurs jours à venir. Des meilleurs jours à venir. Quoi que ce soit que les politiques vous disent, quoi que ce soit que l'économie vous dise, des meilleurs jours s'en viennent. Le croyez-vous? Amen. Vous ne semblez pas le croire trop. Moi, je vous dis, là, il y a des meilleurs jours qui s'en viennent. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, c'est quoi les problèmes devant vous? C'est quoi les peurs, peut-être, devant vous ce matin? Pâques déclare que vous pouvez être victorieux de n'importe quel problème que vous pourriez confronter. N'importe quel. La victoire peut être la vôtre, en croyant à Pâques. Pâques, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est la puissance. La puissance de Dieu qui libère, qui ressuscite un fils mort après qu'il ait été dans la tombe pendant 3 jours. La puissance de Christ. Il y a beaucoup de pierres tombales qui sont inscrites. Ici repose, un jour ça sera Fernand Richard. Ici repose, mais la tombe de Christ, ça met, il n'est pas ici. Il vit, il vit. Je crois que Christ est ressuscité des morts et il vit. Je crois à la puissance de la résurrection de Dieu est encore déchaînée pour nous aujourd'hui. Nous avons la puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Je demande à José de venir chanter le chant que je suis sûr que vous connaissez, on va le chanter en anglais, mais Dieu veut nous ressusciter de n'importe quelle défaite que nous avons. Il veut nous donner une vie victorieuse. Il veut nous faire passer d'une vie de solitude ou de tristesse à une vie de plein de sens et de joie. Il veut nous ressusciter d'une vie étouffée par la peur à une vie vivante, pleine de confiance. Alors, roulez la pierre de toute incrédulité devant vous, dans vos cœurs. Contemplez la gloire du tombeau vide et courez devant la puissance qui peut maintenant être la vôtre. Alléluia. Mettez votre main, tremblante et faible peut-être, mais dans la main de Jésus et dites comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alléluia. La croyance en Jésus et en sa résurrection est la clé qui nous délivre de la peur et du chagrin. Jésus est la clé du bonheur personnel, de la paix et de la vie éternelle. Vous pouvez connaître cette paix. Vous pouvez connaître cette joie. Vous pouvez avoir cette puissance si aujourd'hui vous vous consacrez à lui et que vous disiez ensuite dans votre cœur, « Je sais que mon Rédempteur vit parce qu'il vit. » Alléluia. Merci Seigneur. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Alléluia.
God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives, because He tomorrow, because He lives, all fear is gone, because I know He holds the future. Because He lives, how sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days, because He lives, because He He lives. one day across the river I'll find life's fine. No war will pay, and then as death gives way to victory, I'll see the light of glory and I'll know He lives, because He can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future. Worth living just because He